J'aimerais ça vous encourager aussi à profiter du livre. Je voulais revenir là-dessus parce qu'on a, on a eu la conférence samedi dernier sur la prière. Et vous savez qu'on travaille sur ça cette année, sur l'évangélisation personnelle et sur la prière. Moi, j'avais lu le livre il y a presque 2 ans maintenant. J'avais été vraiment grandement édifié par ce livre-là. Et bon, j'ai confessé au Seigneur, je manquais un peu de foi lorsque la conférence s'en venait. Je disais au Seigneur, Seigneur, il faut que ce soit aussi bon que lorsque j'ai lu le livre, parce que vraiment, j'ai été édifié, tout ça. Et puis, je manquais de foi, honnêtement. Mais les commentaires que les gens nous font sont très, très, très positifs. Et ceux qui ont commencé à lire le livre rencontrent cette même proximité-là avec Dieu, ce rafraîchissement-là par rapport à la prière. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager à saisir l'opportunité, que ce soit à travers les leaders, à travers les petits groupes. C'est possible pour les petits groupes de lire ce livre-là ensemble, de vous donner du temps pour le lire. C'est possible d'aller vers un ami dans l'église, un frère, une sœur, pour dire, écoute, veux-tu, on va le lire ensemble, on va partager sur ça. J'aimerais encourager les hommes, les chefs de foyer, les époux. J'aimerais ça vous encourager, les gars, sérieusement. C'est un des endroits où les hommes luttent le plus, la prière. Il y a quelque chose avec l'intimité, au niveau de l'intimité avec Dieu, qui est plus difficile pour nous, il semblerait. Alors, je veux vous encourager, premièrement, à lire le livre, à faire ce pas-là de foi. Et si vous avez essayé la prière dans le passé, puis vous avez abandonné parce que vous avez dit, je sais pas, je dois pas être un gars de prière, je suis pas fait pour ça, je vous encourage à faire le pas de foi, de commencer à lire le livre simplement en demandant à votre Père Céleste de venir toucher votre cœur. Et je crois que c'est là qu'il va vous diriger dans cette intimité-là avec le Père, cette grande simplicité. Un frère qui prie régulièrement, qui a l'habitude d'écrire ses prières et qui a une approche très fidèle, très régulière à Dieu, me partageait cette semaine, il dit, c'est comme si ça me libère, ça me donne encore plus de place pour la prière, parce qu'il y a plus de simplicité dans mon approche au niveau de la prière. Et donc, je vais encourager les hommes particulièrement à faire ça, et je vais mettre un défi plus grand pour vous, considérer sérieusement, de commencer à prier tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, quelques minutes, 5-10 minutes avec votre épouse, peut-être en lisant le livre, peut-être simplement en priant. Dans la mesure où vous êtes capable d'aller prier avec votre épouse, le couple est capable de prier ensemble, il y a quelque chose qui se passe là, à cet endroit-là, parce que je dirais que c'est probablement un des endroits où nous sommes le plus humbles et le plus vrais lorsque nous sommes dans la prière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est probablement un des endroits. Je ne parle pas de la prière publique. Des fois, on n'est pas vrai, tu sais, puis on prie pour toutes les autres oreilles que celles de Dieu. Mais je parle de la prière personnelle. C'est probablement l'endroit où nous sommes, un des endroits où nous sommes le plus vrai, le plus humble, le plus honnête. Et lorsqu'un couple peut commencer à expérimenter ensemble cette intimité-là, qui n'est pas, je ne suis pas en train d'enseigner mon épouse à travers mes belles prières, elle n'est pas en train de m'enseigner, on est simplement en train de venir humblement devant notre Père. Il y a quelque chose au niveau de la communion entre deux individus qui se passe là, qui est extraordinairement précieux. Vraiment précieux. Et ça fait toute une différence dans votre intimité. Alors, quel que soit l'état de votre relation, les défis à surmonter, ou vous êtes simplement dans la joie, il y a quelque chose qui est là. Et je veux exhorter ce matin les hommes à prendre cette initiative-là. Si vous le faites, écoutez, la grande majorité d'entre les femmes de cette assemblée vont répondre favorablement à vos initiatives. Alors humblement, faites-le. Et donnez-moi des nouvelles. Vous allez voir, Dieu va faire des choses dans votre couple que vous ne verriez pas se dénouer autrement et une intimité qui va se construire à travers ça. Je vais vous en reparler de ce livre-là. C'est un des outils dont on veut se servir pour continuer à avancer et grandir ensemble dans la prière. On va écouter ensemble la parole de Dieu. Acte 15, verset 36. Mon épouse Esther va lire jusqu'au chapitre 16, verset 15. Écoutons ensemble la parole de Dieu.
Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous! » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances.
C'était la parole de Dieu, on va prier ensemble. Bien, Père, nous sommes assemblés ici pour louer ton nom, pour te connaître, Seigneur, pour te laisser parler à nos cœurs, nous faire grandir dans tes voies, Seigneur. Père, j'ai la ferme conviction que tu es présent par ton esprit, et bien que tu sois invisible, Seigneur, ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies laisse une trace indéniable. Lorsque tu interviens en faveur d'un homme, d'une femme, qu'il soit jeune ou vieux, l'œuvre de ton esprit dans son cœur laisse des traces de ta grâce, Seigneur. Parce que tu nous attires à toi, parce que tu nous conduis, parce que tu nous convaincs de péché et de notre besoin de toi, Seigneur. Lorsque ton esprit œuvre dans nos cœurs, tu nous convaincs du besoin dans notre vie de la croix et dans notre vie à tous les jours, de la présence de ton esprit et de son œuvre en nous pour nous façonner à l'image de Christ. Père éternel, je veux te bénir, je veux t'adorer parce que tu as jugé bon, Seigneur, de venir vers des êtres imparfaits, pécheurs comme nous, et de ne pas nous laisser à nous-mêmes. Et non seulement tu as jugé bon de venir nous instruire, nous montrer la voie, nous enseigner, nous laisser la Bible, mais dans ta grâce, tu as jugé bon de venir faire ta demeure en nous, Seigneur. Et je veux t'adorer, t'honorer, Esprit Saint de Dieu, pour ton œuvre puissante. et je te prie de nous instruire ce matin. Viens, Seigneur, nous aider à avoir conscience du rôle que tu joues dans notre mission et dans toute nouvelle naissance auquel nous avons et nous, auquel nous assisterons, Seigneur. Je te prie, Père, ce matin, pour les gens au milieu de nous qui sont indifférents à ton œuvre, ou qui sont en colère, offensés par la foi chrétienne, ou encore qui sont en cheminement, Seigneur. Attire-les à ton Fils, Père, et viens faire une œuvre puissante de grâce dans leur vie. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Personnellement, vous, est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous pouvez identifier quand vous pensez à votre nouvelle naissance spirituelle, est-ce que vous pouvez identifier clairement, je vais appeler ça comme ça ce matin, d'accord, le facteur Dieu dans votre nouvelle naissance? Je le formule autrement, est-ce que vous avez vu la main de Dieu vous conduire à travers des gens qui sont venus vers vous, des circonstances, tout ça, mais aussi ouvrir votre cœur à l'Évangile? Est-ce que quand vous vous remémorez votre conversion, votre nouvelle naissance, est-ce que le facteur Dieu est évident à vos yeux? J'espère que oui. J'espère que oui. Parce que c'est une grâce lorsque, pour une première fois, on perçoit l'œuvre de l'Esprit de Dieu à travers les circonstances de notre vie, à travers des choses qui se passent, à travers sa parole, mais particulièrement dans notre cœur, lorsque nous sentons que l'Esprit de Dieu est en train de nous incliner vers Dieu, nous conduire vers lui, c'est une grâce incroyable. Maintenant, l'autre volet de ça, est-ce que vous êtes vraiment convaincu que Dieu peut ouvrir des portes? C'est-à-dire qu'il peut vous conduire dans votre désir d'annoncer l'Évangile. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler dernièrement, au cours de la dernière semaine et derniers mois, d'occasions, de moments où Dieu a ouvert une porte pour que vous puissiez annoncer l'Évangile? Est-ce que vous vous rappelez de ces moments-là? Est-ce que c'est une conviction dans votre cœur que Dieu opère ainsi, qu'il ouvre des portes pour l'Évangile? Maintenant, j'ai une question aussi pour ceux qui sont en cheminement. Ceux d'entre vous qui, lorsqu'on parle, lorsqu'on prêche la parole, vous êtes peut-être intrigués, vous êtes peut-être en train de réfléchir, mais vous êtes peut-être carrément indifférents aussi. Est-ce que l'Esprit de Dieu ouvre actuellement les yeux de votre cœur d'une manière nouvelle pour vous, pour vous amener à vous confier entièrement en Jésus-Christ pour votre salut? Il y a certainement dans cette salle ce matin des gens en qui Dieu est en train de travailler par son Esprit. Si je m'assoyais avec vous, je prenais un café avec vous et je vous demandais, est-ce que tu crois dans l'Évangile? Est-ce que tu es chrétien? C'est-tu clair que tu es chrétien? Certains d'entre vous pourriez me dire, je ne sais pas. D'autres diraient non. Et certaines de ces personnes qui ont ces réponses-là, si on avait une relation assez intime, si je vous demandais, OK, tu n'es pas chrétien, ou c'est pas clair, mais est-ce que tu perçois l'œuvre de l'Esprit dans ton cœur? Est-ce que tu sens que Dieu est en train de t'attirer à lui? Et certainement, au nombre qu'on est, il y a des gens ici qui me diraient, c'est fatigant, mais oui, je le vois, il est en train de tirer sur un fil qui est attaché à mon cœur, il est en train de me diriger vers lui. Parce que dites-vous quelque chose, les gens qui sont autour de vous, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, pourraient à peu près tous témoigner de ce moment où ils ont perçu l'œuvre de Christ. Certains d'entre vous, c'est moins évident, peut-être vous avez accepté le Seigneur très jeune, puis vous percevez l'œuvre de l'Esprit de Dieu comme depuis toujours dans votre cœur. Je respecte ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ça dépend vraiment de l'âge, puis qu'est-ce qui se passe, et chacune de nos histoires de conversion sont différentes. Mais vous connaissez cette œuvre de l'Esprit dans votre cœur. Et pour la grande majorité de ceux qui ont accepté le Seigneur un peu plus vieux, vous êtes capable de retourner en arrière puis de dire, l'Esprit de Dieu est en train de travailler à travers telle circonstance, telle circonstance, telle circonstance. Il y a un moment donné où je comprenais que j'étais en train de freiner Dieu ou de résister à Dieu. Avant ça, j'en étais pas conscience. Dieu, c'était peut-être quelque chose quelque part. Mais il y a un moment où ce n'était plus peut-être quelque chose quelque part, c'est quelqu'un qui est en train de m'attirer à lui. Et peut-être que c'est ça que tu es en train de vivre. C'est une grâce. Parce que régulièrement, nous, on annonce l'Évangile à des gens et au meilleur de leur connaissance, ils sont totalement indifférents à tout ce qu'ils entendent. Complètement indifférents à tout ça. Dans le meilleur des cas, ils vont nous dire « Ah, c'est cute. C'est cute. C'est bon pour toi, mon ami. » Ce matin, on va voir ensemble que s'il est vrai que personne ne connaîtra Jésus-Christ si nous n'ouvrons pas la bouche, si nous n'annonçons pas l'Évangile de quelque manière, que ce soit en distribuant des Bibles, des traités, en annonçant l'Évangile par la radio, peu importe, par Internet, si nous n'ouvrons pas la bouche et si ceux qui entendent ne répondent pas à l'appel, s'il est vrai que ces gens-là, personne ne va connaître Jésus-Christ si nous n'ouvrons pas la bouche et si les gens qui entendent ne répondent pas à l'appel, notre espoir se trouve dans le fait que Dieu sera toujours le facteur déterminant. Amen. Dieu sera toujours le facteur déterminant dans le salut de quelque individu que ce soit. Même si c'est vrai que je dois ouvrir la bouche, et l'apôtre Paul est super clair, même si c'est vrai que la personne qui entend l'Évangile a la responsabilité de répondre, Dieu va demeurer le facteur déterminant dans le salut de chaque individu. Et je résume ça en deux points ce matin. Le facteur Dieu dans ta mission et le facteur Dieu dans toute nouvelle naissance spirituelle. Le facteur Dieu dans ta mission, dans la mission de l'Église, mais dans la tienne, individuellement, chacun d'entre vous. Et le facteur Dieu dans toute nouvelle naissance, que ce soit la vôtre ou celle des gens que vous aimeriez voir venir à la connaissance de Jésus-Christ. Fait que ce matin, je soulève une grosse question, une énorme question. Quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme dans la nouvelle naissance? C'est quoi le rôle de Dieu? C'est quoi le rôle de l'homme dans la nouvelle naissance? La Bible nous parle d'un Dieu souverain et nous parle d'un être humain responsable. Et ce matin, je veux pas lancer un débat. C'est pas ça mon intention du tout. Mais je veux simplement attirer votre attention à l'intérieur du livre des Actes sur le passage qu'on regarde ce matin, sur ce facteur Dieu. Dans ta mission, dans le fait que tu annonces l'Évangile, le facteur Dieu dans ton cheminement spirituel, dans la conversion, la nouvelle naissance de qui que ce soit. Et je veux attirer notre attention sur ça ce matin. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas la responsabilité d'annoncer l'Évangile, d'ouvrir la bouche. Si je crois personnellement au Seigneur Jésus, c'est parce que quelqu'un m'a annoncé une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle se résumait dans une phrase. Cette phrase-là, c'est simple. Jésus-Christ est venu offrir sa vie en sacrifice, lui qui est parfait, pour me permettre à moi, qui suis pécheur, imparfait, de me réconcilier avec Dieu. Et c'est par le biais de son sacrifice à lui que mes fautes à moi peuvent être pardonnées par ce Dieu parfait afin que je puisse accéder dans sa présence. Ce Jésus-Christ-là est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas resté dans un tombeau. Et donc, Dieu a agréé son sacrifice, Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. Et quiconque sur la terre place sa foi en Jésus-Christ, non pas sur lui-même, pas sur ses capacités pour se rapprocher d'un Dieu saint et juste et droit, mais place son espérance dans le sacrifice de Jésus-Christ, à celui-là, l'assurance est donnée qu'il ira pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et la preuve est donnée dans son cœur que cela est effectif par la présence de l'Esprit de Dieu dans son cœur, qu'il conduit de plus en plus à être à l'image de Jésus-Christ. Voilà l'Évangile. Si personne ne m'avait annoncé ça, je ne pouvais pas devenir chrétien. Je ne pouvais pas être sauvé. C'est une autre question, celle-là. Pourtant, la Bible est claire. Je ne pouvais pas. Alors, il faut annoncer l'Évangile. On a la responsabilité de la faire. Ce n'est pas une question. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes placé soit dans un foyer chrétien, soit que vous avez des amis chrétiens, puis on est toujours en train de vous achaler, vous fatiguer avec notre bonne nouvelle, avec l'Évangile. Comprenez qu'à nos yeux, ce qu'on a compris de Jésus-Christ, c'est que cet homme-là a accompli quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'il a accompli en venant et en s'offrant volontairement pour mourir sur cette croix, c'est unique. Il n'y a pas personne qui est grand comme Jésus. Vous avez juste à lire ses enseignements, voir ses œuvres. Vous avez juste à voir le genre de bonhomme qu'il était. Il n'y a personne qui est grand comme Jésus, qui a été généreux au point de dire, regarde, tout ça, je renonce à tout cela, crucifiez-moi. C'est quoi le message qu'il y avait derrière ça? Ce message-là est unique. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Vous allez trouver des sagesses, des voies, des guides à travers toutes sortes de systèmes de pensée. Mais ce que Jésus a accompli, c'est unique. Ce n'est pas de la prétention. On travaille sur la base d'un événement historique qui est unique, qui a marqué l'histoire de l'humanité. Il y a des choses qui sont uniques. Ce que Christ a fait, c'est unique. Et c'est salutaire pour votre âme. Et c'est pour ça qu'on est tellement fatigué avec ça. Alors, on a la responsabilité d'annoncer l'Évangile, c'est vrai. Et la personne qui entend l'Évangile a une responsabilité personnelle très claire. Le livre des Actes nous le montre constamment. Il y a des gens qui répondent à l'appel de l'Évangile. Il y a des gens qui entendent parler de Jésus, ça les met en colère. Ils sont en joie le vert, là. Puis ils deviennent haineux. Et il y en a d'autres qui sont carrément indifférents. Ça leur dit rien, c'est comme... Tu parles à un mur, c'est pareil, c'est des fables, c'est des contes pour enfants. Pour eux, ça n'a aucune portée réelle dans leur vie. Et chaque individu a une responsabilité. Depuis une semaine et demie environ, sur les ondes de Radio-Canada, sur la radio de Radio-Canada, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu le nom de Jésus-Christ être méprisé, moqué, ridiculisé. Il y a vraiment une évolution ou une dévolution, dites-le comme vous voulez, dans notre société avec un mépris incroyable. J'ai juste entendu Guy Mongrain dire à l'animateur à l'émission où il était, dire « Le crucifix qui est dans la glace, là, le petit Jésus t'a mis sa glace, sors-le de là, tu fais pas ça. » Oh, ça a été comme un vent d'air frais. Il y a quelqu'un qui a pris la défense de quelque chose qui a autant de valeur que ça. Et voyez-vous, chacune de ces personnes a une responsabilité devant Dieu. L'œuvre de l'Esprit dans le salut des individus n'enlève rien leur responsabilité individuelle. Et ils devront soit se repentir de leur vivant ou comparaître devant Dieu un jour pour ça. Et si jamais ils entendent cette traque-là et ils partent à rire, ça ne change rien à cette réalité-là. Alors ce matin, je ne veux pas enlever la responsabilité pour nous d'annoncer l'Évangile et la responsabilité pour chacun des individus de répondre à ça. Mais ce que je veux voir avec vous ce matin, c'est quel est le facteur Dieu dans notre mission et le facteur Dieu dans chacune des nouvelles naissances. Est-ce que vous êtes conscient, je commence avec ça, est-ce que vous êtes conscient lorsque vous voulez annoncer l'Évangile, que ce soit dans votre famille, que ce soit à vos enfants, que ce soit à vos collègues de travail, quand vous vous rendez au travail puis vous dites « Ah, j'aimerais ça parler du Seigneur, j'aimerais ça parler de l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ », est-ce que vous avez conscience du facteur Dieu? Que Dieu est déterminant dans l'opportunité et est déterminant aussi dans les réponses qui vont se produire là. Est-ce que vous avez conscience de cela? Quand vous venez à la bouffe pour tous servir, puis que vous voulez servir des gens, vous aimeriez ça, leur témoigner, vous êtes à l'inscription, vous annoncez l'Évangile, est-ce que vous êtes conscient du facteur Dieu? Je sais que c'est réducteur de le dire comme ça, mais vous comprenez, ça englobe tout. Dieu joue un rôle déterminant dans notre mission, dans ta mission. Et alors que tu es en train de prier pour tes enfants, tu es en train de prier pour ton époux, ton épouse, tu es en train de prier pour des proches, puis tu veux leur annoncer l'Évangile, puis tu te butes à un cœur qui est fermé, qui est rebelle, qui veut rien savoir, qui est juste carrément indifférent, et tu es tenté de partir de là avec un cœur aigre, de garder ça à quelque chose entre lui et toi, comme si c'est juste sur ce niveau-là que ça se passait. Est-ce que tu prends conscience du facteur Dieu dans cette relation-là ici? Parce que toi, tu es un messager, vous êtes des messagers qui annoncent un message qui concerne beaucoup plus Dieu que vous-même. Voyez-vous, c'est Jésus-Christ qui nous envoie par son esprit. Pensez à Matthieu 28. Avant d'aller dans le passage directement, pensez à Matthieu 28, 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et puis Jésus va dire ensuite, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. » C'est Jésus-Christ qui nous envoie, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui nous envoie dans cette mission-là. Dans Acte 13, avant le premier voyage missionnaire de Paul, on a vu ensemble dans Acte 13, le Saint-Esprit, alors qu'ils sont en train de prier, les leaders de l'Église d'Antioche sont en train de prier, et puis le Saint-Esprit vient parler. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est à travers la bouche d'un prophète? C'est dans leur cœur? Je ne sais pas. J'ai pas aucune idée. Est-ce que c'est dans le cœur de Paul et Barnabas? Puis ils ont dit, « Hey, les boys, on sent que Dieu nous appelle à partir. » On ne sait pas. Mais voici comment Luc, le narrateur, résume ça. Il dit, « Le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est Jésus-Christ, par son Esprit, qui nous envoie dans la mission. Et donc, l'Esprit de Jésus demeure présent dans notre mission. Il est impliqué quotidiennement dans ta mission. Ces gens pour qui tu pries, ces gens que tu as à cœur, ces gens qui tu voudrais témoigner de l'Évangile, Jésus-Christ, par son Esprit, l'Esprit de Christ, est présent dans cette mission-là. Est-ce que tu as conscience de ça? Ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses. C'est Jésus-Christ qui nous envoie, qui nous dirige même par son Esprit. On le sait, je crois que ce qu'on néglige souvent, c'est de voir les portes que Dieu ouvre, les portes que Dieu ferme, prendre les portes que Dieu ouvre pour pouvoir justement aller annoncer l'Évangile. C'est ce que je voulais dire lorsque je disais « prends la porte ». Prends la porte que Dieu ouvre et accepte celle que Dieu va fermer, au contraire, lorsqu'il ne t'ouvre pas la porte pour ça. Tournez avec moi dans Acte 14, encore une fois avant d'aller dans notre passage, dans Acte 14, verset 27. Alors Paul, Saul et Barnabas reviennent de leur premier voyage missionnaire et font des rapports de leur voyage missionnaire. Verset 27, voici ce qu'on lit. « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. » C'est Dieu qui avait ouvert aux nations la porte de la foi. Dans le contexte précis, dans ce que Paul et Barnabas sont en train de relater, ce qu'ils sont en train de rapporter. Je pense que c'est plus que juste les circonstances. C'est pas simplement, Paul et Barnabas ne sont pas simplement en train de dire « Dieu nous offre des opportunités d'annoncer l'Évangile ». C'est plus que ça ici, parce que ce qu'ils vont raconter, c'est comment les païens, leur cœur a répondu à l'Évangile. Pour eux, la confirmation ultime que c'était Dieu qui ouvrait la porte, c'est pas seulement que Dieu leur donnait une opportunité d'ouvrir la bouche puis parler de Jésus. En fait, Paul puis Barnabas se rendaient sur la place publique, ils criaient puis attendaient qu'on leur lance des roches. S'ils se disaient, ben, on a eu 5 minutes de porte ouverte. 15 minutes de porte ouverte. Fait que c'est plus comme des défonceurs de porte, vous comprenez? Mais ce qu'ils veulent dire ici dans le passage, c'est que, écoutez, on est allé dans toutes ces villes-là, on a reçu des cailloux, on nous a laissés pour mort, oui, il y a eu toutes sortes de choses. Mais si vous aviez vu la réponse d'un grand nombre de non-juifs à l'Évangile, comment leur cœur s'est ouvert à l'Évangile, c'est Dieu qui a ouvert la porte à l'Évangile, la porte de la foi. Dieu était là et c'était lui qui ouvrait ces portes-là pour que l'Évangile non seulement sorte de notre bouche, mais trouve une terre fertile, pas un cœur indifférent. C'est Dieu qui ouvre les portes et c'est Dieu qui ferme les portes. Acte 16, versets 6 à 10. Là, ça va devenir beaucoup plus concret, même si c'est mystique un peu là. Mais ça devient concret quand même. Parce que Paul et Barnabas Paul part avec Silas pour un deuxième voyage missionnaire. Et il a son plan de match. Paul était un homme très, très proactif. Il était toujours en train de réfléchir. OK, on va aller par là. Grosse ville. Faut qu'on atteigne cette ville-là. Après ça, ça va se répandre. L'Évangile va se répandre dans toute la contrée. Extrêmement stratégique. Donc, un homme qui planifiait beaucoup, qui était en train d'avancer. Et pourtant, dans ce passage-là, d'une manière mystérieuse, le Saint-Esprit va intervenir et il va les conduire dans la mission. Acte 16, verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. » Donc ce voyage-là commence très rapidement parce que le Saint-Esprit les empêche. J'ai aucune idée comment ça se passe. Est-ce que c'est à travers une prophétie? C'est possible. Est-ce que c'est circonstanciellement Dieu empêche qu'ils puissent se rendre là pour une raison quelconque? Hein, le passeport marche pas, tu pourras pas rentrer ici. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est de la maladie? qui a fait que non, il devait traverser tout de suite, aller trouver les soins d'un médecin. Je ne sais pas c'est quoi, j'ai aucune idée, d'accord? Mon impression, c'est qu'il y a quelque chose lié avec la prophétie ici. C'est mon impression. Mais c'est très fort, c'est pas juste que le Saint-Esprit leur aurait dit qu'ils ne devaient pas le faire, c'est qu'il les a empêchés de le faire. Donc c'est peut-être plus que ça, peut-être que c'est les circonstances. Verset 7, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Une deuxième fois. Et là, ici, Luc, je fais juste un commentaire ici. Luc veut nous rappeler que Jésus est encore impliqué dans cette mission-là. Et il nous rappelle que l'Esprit de Dieu, en fait, c'est l'Esprit de Christ. C'est lui qui l'a envoyé. Et donc, Jésus est très présent dans cette mission-là. Ce n'est pas deux esprits différents, d'accord? L'Esprit de Dieu est appelé régulièrement l'Esprit de Christ aussi dans la parole. Et donc, l'Esprit de Jésus, Jésus dirigeant cette mission, les empêche d'aller là encore et franchir alors la Mysie, descendir à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous! » Et donc, Jésus est en train littéralement de diriger la mission, en fermant et en ouvrant des portes. Ici, c'est de manière extraordinaire, à travers des visions. Ce n'était pas commun à l'époque non plus. Il y a trois visions, si je ne me trompe pas, dans le livre des Actes, d'accord? C'était pas comme, dans ce temps-là, c'était facile de savoir où je m'en vais le matin, j'ai une vision, tu sais. Non, c'est exceptionnel. Ça s'est fait comme ça ici. Mais ce que Luc est en train de nous montrer, c'est que dans l'intention de Paul, lorsque Paul part le matin puis il dit hey, « Aujourd'hui, je m'en vais au travail, j'ai un lunch avec Martin, puis quand je vais aller luncher avec Martin, la dernière fois, il m'avait parlé d'une situation dans sa famille où ça n'allait pas tellement bien, j'aimerais ça prendre des nouvelles, juste lui partager que j'ai prié pour ça, prendre des nouvelles, qui sait, peut-être qu'on va pouvoir parler de Jésus. » Paul s'en allait comme ça, vous voyez, il y avait un plan de match, il y avait un plan de mission. Puis alors qu'il a tout son plan, puis il s'en va en mission, Christ est là. Jésus est là et dirige dans cette mission-là. Ferme des portes, ouvre des portes, le conduit dans sa mission. Paul n'est pas seul en train de planifier sa mission. Et nous devons apprendre à être sensibles à ce que Dieu est en train de faire, à ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans notre mission, dans ta mission à toi. Tu as ton plan de match, tu as décidé que ce soit d'aller ouvrir la Bible avec la famille parce que tu veux que tes enfants grandissent dans la foi, puis ça se passe pas comme ça, pour une raison quelconque. Comment est-ce que tu réagis à ça? Est-ce que tu vois la main souveraine de Dieu puis tu dis, « OK, Seigneur, c'est quoi le détour que tu veux prendre? » Parce que, tu sais, il faut que j'annonce l'Évangile dans ma famille, je veux l'annoncer à mes enfants. Tu as des intentions, on arrive au temps des fêtes, plusieurs d'entre vous, vous avez des plans, vous dites, « Ah là, on va aller faire un tour d'auto à un moment donné avec mon frère, puis on va jaser, puis j'aurai l'occasion d'y partager juste des choses que Dieu a faites dans ma vie cette année, puis on va pouvoir aller un petit peu plus loin ensemble, puis vous avez un plan de match, et Dieu va peut-être complètement détourner ça. » Est-ce que vous êtes conscient du facteur Dieu dans votre mission? Paul l'a expérimenté de manière concrète. Comprenez, Paul l'a expérimenté, ça fait partie de son vécu. Alors ça change sa manière de voir le champ missionnaire. Lorsque Paul pense au champ missionnaire, c'est encore le Paul qui a plein de plans. Si vous lisez les lettres, les épîtres pastorales, vous lisez toutes les lettres de Paul, vous voyez que c'est un gars hyper structuré jusqu'à la fin. Le gars, il dormait pas. Ça roulait vraiment, monsieur Ladin, il était toujours sa mission. Il a toujours des plans, d'accord? Mais il a appris par expérience à travers son travail d'annoncer l'Évangile, sa mission d'annoncer l'Évangile. Il a appris par expérience que Dieu est un facteur déterminant qui vient ouvrir et fermer des portes. Colossiens 4, versets 2 à 6. Paul a appris par expérience. Il faut que je travaille avec Dieu dans ma mission. Il faut que je travaille avec Dieu dans ma mission. Colossiens 4, versets 2 à 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. L'apôtre Paul avait appris par expérience qu'il pouvait faire des plans. Il pouvait avoir plein de plans pour annoncer l'Évangile à plein de monde. Mais Dieu est le facteur déterminant dans ses efforts pour parler de Jésus-Christ. Que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit avec tes amis à l'école, que ce soit avec des jeunes de la jeunesse que tu as à cœur, puis tu te dis, ouf, il me semble que ça ne va pas bien, ils s'éloignent du Seigneur, je voudrais parler avec eux, que ce soit avec des parents éloignés, que ce soit avec des amis, que ce soit lorsque tu viens servir ici à la bouffe pour tous, tu as des plans de faire un JBEC, peu importe. Paul a appris par expérience que Dieu ouvre et ferme des portes et que nous sommes appelés à travailler avec l'Esprit Saint. Alors, il sait que même s'il a appris à articuler l'Évangile comme très peu d'hommes dans toute l'histoire de la chrétienté, je veux dire, regarde, Paul, regarde, il l'a inventé 26 fois, là, on s'entend, là? Il connaissait toute l'histoire, elle connaissait, puis il y avait des histoires croquantes avec ça. Je veux dire, même Tony Anthony, son histoire n'est pas haute comparée à celle de Paul. Malgré tout ça, Paul avait appris que le facteur déterminant, c'est est-ce que Dieu va ouvrir des portes ou va fermer des portes? Priez pour moi, s'il vous plaît. Parce que Dieu sait que c'est ça qui est sur mon cœur, mais il faut que Dieu ouvre les portes. Il faut que Dieu ouvre les portes. Et Dieu ouvrait des portes des fois étranges. OK, on t'attrape, on te jette en prison. Hey, on t'ouvre une porte de prison. Comprenez? Non, mais c'est contrariant pour un gars comme lui qui faisait je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres par jour à voyager pour annoncer l'Évangile à plein de monde. Là, il est pris avec les mêmes gars qui font leur chiffre de travail enchaîné après lui à leur annoncer Jésus. Son habitude à lui, c'est j'annonce une fois, je m'en vais au prochain appel. Mais Dieu ouvre des portes. Et c'est comme ça qu'il va l'analyser. Si vous vous rappelez bien, Paul va dire, on a une porte énorme qui m'est annoncée qui m'est ouverte dans tout le prétoire pour que je puisse annoncer l'Évangile. C'est à travers son procès qu'il voit la porte ouverte. Paul avait appris par expérience que Dieu est un facteur déterminant. Alors, il dit toujours dans ce passage, « Priez pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Dieu a répondu à sa prière. Et dans les chaînes, il a pu annoncer l'Évangile. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. » Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Responsabilité du messager. Soyez toujours prêts à annoncer l'Évangile, mais priez pour que Dieu ouvre les portes, par exemple. Alors, priez, s'il vous plaît. Priez dans votre famille, priez pour vos enfants, priez pour vos proches, priez pour vos collègues de travail. Priez pour que Dieu ouvre des portes. Et Dieu va le faire. Tout à l'heure, Jean-Sébastien m'a partagé quelque chose, j'ai trouvé ça. Jean-Sébastien qui dirigeait la louange tout à l'heure, puis il me partageait, il me dit, je la raconterai tout croche, Jess, tu me corrigeras après. Mais il me dit que son patron lui a dit, écoute, son patron lit la Bible, il étudie la Bible depuis des années. Il ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est pour prouver que c'est faux ou est-ce que c'est pour trouver la vérité, il ne sait pas. Mais Jean-Sébastien faisait juste me dire que donc son patron il a dit, il faudrait qu'on aille prendre une bière à un moment donné ensemble puis qu'on aille parler de tout ça ensemble, tu sais, c'est cool. Puis là, JS m'a dit comment Dieu avait ouvert la porte. Bien, à un certain moment donné, ceux qui étaient avec nous à la conférence de Tony Anthony, l'approche de Tony Anthony avec ses faux 50$, vous vous rappelez? Qui sont quand même, tu sais, c'est pas comme super hot comme traité, là. On peut écrire quelque chose de plus soutenu que ça, là. Puis Tony Anthony, lui, il plie ça, ces affaires-là, puis il met ça partout, tu sais. Puis il dit, on s'aime. Fait que Jean-Sébastien avait porté ses petits billets au bureau, puis ça a fait ce que ça fait souvent. Les collègues de bureau disaient « Ah, c'est des 50$, ils lisaient ça », puis là, après ça, ils se moquaient du message qu'il y avait là-dessus. Donc, si on s'arrête là dans l'histoire, bien, il a fait une dinde de lui. Mais Dieu a ouvert une porte, parce que ça a attiré l'attention de son patron, qui lui a dit « Il faudrait qu'on aille prendre une bière ensemble pour en parler. » Dieu a ouvert une porte, d'accord? Priez pour que Dieu ouvre des portes parce que Dieu est déterminant dans notre désir d'annoncer l'Évangile. Ceux qui ont vécu les années 70-80 avec le réveil spirituel qui a eu lieu ici au Québec, vous savez la différence entre le moment où Dieu ouvre grandement les portes dans une province et où Dieu les referme. Et ceux qui ont vécu cette époque-là, la majorité d'entre vous, vous avez ce sentiment, parce que des pionniers me l'ont raconté je ne sais pas combien de fois, qu'on attend que Dieu ouvre encore grandement les portes pour la province. Amen? Ceux qui ont connu ça, vous savez de quoi je parle. Les portes étaient grandes ouvertes et c'était beaucoup plus facile d'annoncer l'Évangile. Prions pour que Dieu ouvre ses portes à nouveau. Et l'autre volet qui vient avec ça, accepte celle que Dieu ferme. Accepte les portes que Dieu ferme. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de prier pour ces gens-là. Mais une des leçons que je retire du livre des Actes, c'est que l'apôtre Paul n'était jamais découragé par une porte fermée. Je l'ai dit déjà quelques reprises dans la série, Mais je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez tellement à cœur le salut de vos enfants, le salut de votre conjoint, le salut de vos proches. Vous priez tellement pour eux et c'est difficile et ça rentre pas dans la famille. Vous priez pour vos parents depuis des années, puis ça rentre pas. Et parce que vous restez là, vous passez pas au prochain appel. Acceptez les portes qui sont fermées. Elles le sont peut-être pas éternellement. Priez pour votre famille. Priez pour eux. Priez pour que Dieu ouvre les portes. Mais acceptez que Dieu est un facteur déterminant dans tout ça. Et cherchez, priez pour que Dieu ouvre des portes. Et lorsqu'il en ouvre une, prenez-la. Prenez la porte. Et annoncez l'Évangile. Le deuxième facteur Dieu que je vois dans tout ça, c'est dans la nouvelle naissance spirituelle. Nous, on annonce l'Évangile. La personne qui l'entend doit répondre à l'appel, c'est clair constamment dans le livre des Actes. Les gens qui refusent sont responsables d'avoir refusé. C'est très, très clair. Mais Dieu est celui qui appelle et il est celui qui ouvre les cœurs. Regardez avec moi Actes 16, 14. Il y a un tout petit commentaire ici. Et si vous avez l'impression que c'est exceptionnel, relisez le livre des Actes au complet. Cette notion que Dieu appelle, que Dieu sauve, que ceux qui avaient été appelés par Dieu furent sauvés, acceptèrent l'Évangile, c'est constant dans le livre des Actes. Je prends simplement une situation pratique. Alors, Paul va annoncer l'Évangile à cette dame qui va à un endroit de prière et il trouve à cet endroit de prière qui est près d'une rivière. Il n'y avait probablement pas de synagogue dans cette colonie-là. Et donc, il va toujours, sa stratégie, c'est toujours d'aller là où les Juifs se réunissent pour prier. La synagogue, s'il y en a une, un endroit de prière, s'il n'y a pas de synagogue, il va rencontrer là des Juifs. Il va souvent rencontrer là aussi des gens qui sont sympathisants à la foi juive, qui cherchent, qui sont en cheminement et il va leur annoncer l'Évangile. Alors, il trouve des dames qui sont là à ce moment-là. Ce qui est probablement un reflet qu'il n'y avait pas beaucoup de Juifs qui étaient dans cette colonie romaine-là. Et il va commencer à leur annoncer l'Évangile. Et il y a une dame qui est relativement en moyen, qui va être attentive. Et encore une fois, on voit sa responsabilité. C'est une femme qui craignait Dieu. C'est une femme qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu déjà. Pourtant, il y a ce commentaire du narrateur de Luc qui dit, au verset 14, la deuxième partie, « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. » Dieu est un facteur déterminant dans toute conversion, dans toute nouvelle naissance. Et je pourrais vous citer des dizaines de passages où nous voyons que si le Père n'attire pas la personne à Christ, la personne ne se rendra jamais à Christ. Parce que fondamentalement, nous sommes tous égaux, également pécheurs. Et il n'y en a pas des gens que vous allez rencontrer qui sont juste comme meilleurs que les autres pécheurs, puis qui ont en eux-mêmes, ouais, ils sont totalement pécheurs, mais comme totalement, pas totalement, tu sais. Puis quand ils vont entendre l'Évangile, il y a cette parcelle de bon en eux qui va faire que, oh! Non, Dieu est celui qui appelle. Dieu est celui qui appelle. Et Dieu a accordé la grâce à cette femme-là, Lydie, de lui ouvrir le cœur pour qu'elle soit attentive à ces paroles-là. Est-ce que vous avez la conviction que Dieu est le facteur, en définitive, déterminant dans toute nouvelle naissance? Dans la vôtre, premièrement, ça change tout. Ça change tout pour moi, parce que j'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu comme celui qui n'aurait jamais cherché Dieu si Dieu ne l'avait attiré à lui. Et je suis reconnaissant pour l'Évangile comme je donne la reconnaissance d'un cœur, le cœur d'une personne qui n'aurait jamais accepté l'Évangile si Dieu ne s'était pas manifesté à moi, si Dieu ne m'avait pas attiré à lui. Parce que fondamentalement, je suis un rebelle. Je suis un rebelle et trop souvent je le sais encore et ça m'est rappelé encore et je fais juste constater la grâce de Dieu qui est cette grâce où il m'attire à lui. Dieu joue un rôle déterminant dans toute nouvelle naissance en ouvrant le cœur. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 4, ça vaut la peine de tourner. 2 Corinthiens 4, les versets 3 à 6. « C'est l'apôtre Paul qui parle encore. Cet homme-là avait vu sa propre conversion, sa propre nouvelle naissance, il avait expérimenté. Mais l'apôtre Paul a vu aussi des milliers, certainement des milliers de nouvelles naissances, de conversions. Et il a vu des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers, de personnes rire ou être indifférents à l'Évangile et ne jamais venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et Paul dit ici, « Si notre Évangile, 2 Corinthiens 4, 3, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Ça parle encore de quelque chose de plus que la personne qui est devant moi. « Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Paul dit, « Il y a tant de gens à qui tu annonces l'Évangile et pour qui ça ne résonne pas dans leur cœur. Ça ne leur dit absolument rien. Ils sont indifférents au sacrifice de Jésus sur la croix. Dans le meilleur des cas, c'est une fable, c'est une histoire, c'est quelque chose de culturel. » Et plus généralement, c'est assez méprisable, c'est pour les faibles. Mais Paul nous dit, ils ont certainement une responsabilité, mais comprenez qu'ils sont fils du diable encore à ce moment-là. Et le Dieu de ce siècle, c'est le diable, qui a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ. Ensuite, Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est Dieu qui intervient et qui vient faire tomber des écailles spirituelles. C'est Dieu qui vient attendrir un cœur et qui vient donner la foi. C'est lui qui fait ça. C'est une grâce extraordinaire. La semaine prochaine, on va assister au baptême de Christian et puis d'Hélène. Dieu voulant, on va assister à deux beaux baptêmes et puis ils vont venir nous partager leur témoignage, leur histoire. Soyez attentifs à la manière que Dieu a travaillé dans leur histoire à eux et comment Dieu a travaillé dans leur cœur aussi. Parce qu'en quelque sorte, c'est ça qu'on va écouter. C'est l'histoire de Dieu dans leur vie, dans leur cœur personnel. Pour que l'Évangile de Jésus-Christ brille dans toute sa beauté, que ce ne soit pas simplement des concepts, des idées, des éléments culturels, mais que ça devienne vie pour eux. Ça devienne une espérance profonde de dire, Dieu m'aime, je sais qu'il m'aime, pas sur la base de ce que je vais faire, pas sur la base de ce que je pourrais faire, mais simplement parce qu'il m'aime. C'est Dieu qui opère cela. Cette semaine, j'ai commencé le cours « La foi chrétienne expliquée » avec une amie. Puis je m'en allais là, je priais, tout ça, puis j'avais un peu d'appréhension. Je me disais, bon, comment ça va se passer? Puis à la fin de l'heure passée avec elle, à cause de ses questions, à cause des choses qu'elle disait, je voyais avec mes yeux l'Esprit de Dieu qui est en train de l'attirer. À un certain moment donné, elle m'a demandé, oui, mais comment je fais pour savoir que, super bonne question, que je fais partie des élus? Mais j'ai dit, premièrement, quand l'Évangile va être clair dans ton cœur, tu vas en avoir une absolue certitude. Mais en moi-même, j'étais en train de me dire, écoute ma fille, avec le fait que le Saint-Esprit est en train de t'attirer comme ça, qui a placé cette soif-là, tu n'es pas un homme à l'Évangile. Tu es sensible à ça. Je serais vraiment surpris de ne pas te voir pleurer de joie en réalisant la grâce de Jésus-Christ à la croix pour toi. Et ça, c'est un privilège lorsqu'on assiste à ça. C'est vraiment une grâce de l'avoir expérimenté personnellement, mais après ça, de pouvoir le voir dans la vie d'autres personnes. Ce moment où l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir les yeux du cœur, de faire tomber cet aveuglement-là pour que l'Évangile devienne vie dans leur cœur. Est-ce que vous êtes conscient du facteur Dieu dans la nouvelle naissance des gens pour qui vous priez. Parce qu'inévitablement, si vous l'êtes, ça vous conduit à la prière. Ça vous conduit dans la patience. Ça vous conduit dans la douceur, pas l'impatience. Inévitablement. Ça vous donne confiance pour savoir que vous êtes en train de travailler avec Dieu, que ce soit pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos proches, pour des amis, pour des collègues de travail. Peu importe, si vous êtes conscient du facteur Dieu dans toute nouvelle naissance, vous allez dans la prière. Paul a dit dans l'Épître à Timothée, « Priez pour tous les hommes. Cela est bon et juste. » Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est mystérieux tout ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi ils ne le sont pas tous? C'est mystérieux ça. Mais voyez-vous, j'apprends à voir dans les Écritures et dans mon expérience personnelle, j'apprends à voir ce mystère-là en action constamment. Ma responsabilité, c'est d'annoncer Christ. Sa responsabilité, c'est d'accepter l'Évangile. Le facteur déterminant, c'est Dieu. Et donc, je m'en vais dans la prière, avec foi, avec confiance, que ce Dieu qui a été bon envers une larve comme moi peut l'être envers les gens que j'aime, envers les gens que je côtoie. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire cette œuvre-là dans ton cœur à toi? Tu n'as pas encore saisi Christ, tu n'as pas encore saisi l'Évangile. Mais l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre dans ton cœur. Toi, tu le sais, peut-être tu ne l'as pas partagé même à des gens autour de toi. Prends la porte. Prends la porte que Dieu est en train d'ouvrir dans ton cœur pour venir à Christ. Prends-la. C'est une grâce. Tu vas côtoyer des centaines de gens dans ta vie chez qui tu ne verras jamais cette porte-là s'ouvrir dans leur cœur. Ne résiste plus à l'appel de Dieu. Cours jusqu'à Christ pour saisir l'Évangile. Place ta foi en lui. C'est une grâce incroyable que Dieu te fait. Par toi-même, ton cœur va rester indifférent à l'Évangile, voire profondément rebelle à Christ. Et frères et sœurs, pour chacun d'entre vous qui êtes chrétiens, est-ce que vous êtes prêts avec moi à vous engager à prier régulièrement? Allez dans la prière afin que Dieu ouvre des portes dans ta mission à toi, dans votre mission que Dieu vous a donnée. Et que Dieu ouvre des portes dans notre mission à nous comme famille, comme église. Est-ce que vous êtes prêts à aller avec moi dans la prière, convaincus que Dieu ouvre les portes et que nous devons intercéder en faveur des gens que nous aimons afin que Dieu ouvre ces portes-là? Est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi régulièrement pour ça? Est-ce que vous êtes prêts à prier pour que Dieu nous donne le courage? Paul parle de la hardiesse, qu'il nous donne à tous le courage de prendre les portes qu'il ouvre pour annoncer l'Évangile. L'apôtre Paul avait besoin qu'on prie pour son courage. C'est correct d'être chicken devant ça. C'est toujours étrange annoncer l'Évangile à quelqu'un et souvent ça finit plus mal que bien. Ça fait partie de la game, comme on dit. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour ça? On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es souverain, parce que tu n'es pas un homme comme moi, faible et petit, Seigneur. Et tu interviens dans ma vie, dans la vie des gens de manière mystérieuse, de manière que je ne conçois pas, que je ne comprends pas, mais que je constate, Seigneur. Je l'ai constaté dans ma vie. Je le constate dans ma vie quotidiennement, Seigneur. Je le constate dans la vie des gens que je côtoie lorsque je vois un cœur s'ouvrir à l'Évangile et un autre demeurer indifférent. Je constate, Seigneur, que tu es souverain sur toutes choses et que tu appelles, tu attires et tu ouvres le cœur des hommes pour entendre l'Évangile et accueillir l'Évangile. Père éternel, j'aimerais te prier pour ma mission à moi. Mon champ de mission à moi, Seigneur, mes proches, les gens au club pour enfants, les gens dans ma famille, mes voisins, Seigneur, les gens que tu places sur mon chemin, mes amis. Ouvre des portes dans mon champ de mission, Père. Ouvre des portes, Seigneur. Je prie pour la mission de cette église, Seigneur. Je prie pour la mission de cette Église. Viens ouvrir des portes devant nous afin que nous puissions annoncer l'Évangile à nos familles et trouver des cœurs qui s'ouvrent, Seigneur. Parce que c'est toi qui sauves. Donne-nous du courage pour emprunter chacune de ces voies que tu ouvres, chacune de ces portes que tu ouvres, Seigneur. Donne-nous du courage pour annoncer fièrement l'Évangile de Jésus-Christ, sans se préoccuper de la réception qu'on va avoir. Mais avec confiance, Seigneur, que tu vas attirer et tu vas en sauver, Seigneur, un grand nombre. Ouvre-nous des portes dans cette ville, Seigneur. Tu nous as placés ici avec plusieurs autres églises pour annoncer l'Évangile. Nous sommes des milliers de chrétiens dans cette grande agglomération de Longueuil, Seigneur. Ouvre-nous des portes, Seigneur Jésus, afin que nous puissions annoncer l'Évangile et voir des âmes venir à toi. Merci pour les cœurs que tu as ouverts dans la vie de Christian et d'Hélène, Seigneur, leur témoignage que nous allons entendre la semaine prochaine. Merci de ce que tu as ouvert, les portes de leur cœur, Seigneur. Merci de ce que tu l'as fait pour moi, Seigneur, pour un grand nombre d'entre nous. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, et te garder au cœur de notre mission. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.